Nous reprenons notre réflexion.
Oui, pour un spécialiste d'Alfred de Musset, le retard, les décalages horaires ne sont pas très dérangeants. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Thomas Conrad, qui est l'auteur d'une thèse remarquable sur les cycles romanesques 19e, 20e, je crois, hein, Dumas, etc., et Balzac. Et je crois que vous avez légèrement changé votre titre, donc je vous laisse l'annoncer.
Est-ce que je suis audible ?
Dans le micro, oui.
Non. Normalement, j'ai à la fois un micro-cravate et un micro normal. Je devrais être assez bien équipé. Donc, mon titre, finalement, ne va pas être sur la mobilité des passions, comme il est indiqué sur le programme, car j'ai abandonné cette piste. Ça s'intitulera donc « Du bon usage des passions », puisqu'il est question de l'utilisation des passions. À titre d'introduction, aussi brièvement que possible sur l'idée fondamentale qui a déjà été exposée à plusieurs reprises ce matin, à savoir le fait extrêmement important chez Balzac que la passion est avant tout tributaire d'une physique des passions fondée sur l'idée d'une matérialité de la pensée et que la passion balzacienne est une force, ce en quoi Balzac nous fait passer, tournant déjà amorcé avant, d'une passion considérée comme force qu'on subit à une passion considérée comme force agissante. La passion balzacienne, est motrice, elle est toujours la source de l'action. Cette représentation énergétique, je ne reviens pas là-dessus car on l'a déjà commenté ce matin, est très sensible dans les comparaisons et métaphores. Lisbeth est une fille de soufre et de feu. Elle est comparée de manière saisissante à un volcan. Lorsqu'elle pleure, contrairement aux larmes passives d'Adeline qui coulent sans cesse dans le roman, de petites larmes, aussitôt séchées, mouillèrent pour un moment ses yeux. Puisque le tempérament de feu de Lisbeth, en quelque sorte, dessèche les larmes avant qu'elles coulent. Les passions sont d'ailleurs systématiquement des gouffres, des profondeurs cachées, des réservoirs enfouis au fond des êtres, des mines à sentiments, comme dit Balzac. C'est pourquoi, tout autant que le couple passion-action, le couple passion-raison est, dans la cousine bête, mis à mal. Et on retrouvera là, évidemment, des thèses déjà présentes chez Hume. Alors, peut-être pas, je crois, dans la dissertation qui est au programme cette année, mais en tout cas dans le traité de la nature humaine, où Hume déclare « La raison ne peut jamais être à elle seule un motif pour une action de la volonté. L'impulsion ne provient pas de la raison, qui ne fait que la diriger. La raison est et ne doit qu'être l'esclave des passions. Elle ne peut jamais prétendre remplir un autre office que celui de les servir et de les obéir. » Et en effet, chez Balzac, la raison est clairement mise au service des passions. La passion résonne très bien, elle le fait à longueur de page, et Crevel, d'ailleurs, l'explique très bien à Adeline dans les premiers chapitres. « Si vous étiez mordu par une passion irrésistible, vous vous feriez pour me céder des raisonnements comme s'en font les femmes qui aiment. » Et donc, la passion résonne, la passion fait des raisonnements, et Hortense, la naïve Hortense, au moment où elle tombe amoureuse de Venceslas, est tout aussi calculatrice et rusée qu'une... Elle est très calculatrice et rusée. Et Hulot admire la profonde adresse des jeunes filles agitées par l'instinct et déclare que la plus grande rouée de la terre sera toujours la naïveté. Ce processus est nommé ailleurs par Balzac le jésuitisme de la passion, la capacité à la passion de se subordonner les raisonnements. Et un bel exemple en est fourni par... La discussion entre Crevel et Hulot, une fois chassés de chez Valérie, je crois au chapitre 52, où Crevel et Hulot, à force de parler de l'attirance imbécile qu'ils ont pour Valérie, à force d'en parler, finissent finalement par se remémorer les raisons qu'ils ont de tomber sous son charme et courent immédiatement chez elle. Que la passion soit donc énergie, que la passion soit force qui se soumet à la raison, cela est montré par la nature profondément énergétique des mouvements de la passion. La cousine bête présente de ce point de vue-là un bel éventail des possibilités très fréquentes dans les romans balzaciens, éventail des possibilités de transformation ou de conservation de l'énergie. passionnelle. Des mécanismes de compression, comme chez Bette, dont les instincts sont comprimés par opposition aux instincts d'Hortense qui se donnent libre cours. Des mécanismes d'explosion ou d'expansion, comme dans les regards enflammés que se jettent parfois les amants. Des phénomènes également de dispersion, par exemple, évidemment, avec le personnage de Wenceslas, dont on a parlé ce matin, et des phénomènes, peut-être ceux que Balzac peint de la manière la plus saisissante, de dépression et d'abattement. Je prendrai par exemple l'exemple de la jalousie d'Hortense au moment où elle lit la lettre qui lui annonce que Wenceslas a un enfant de Valérie, où soudain sa passion lui apparaît comme un incendie qui fait tomber la nuit autour d'elle et qui lui fait perdre la conscience ou du moins perdre la majorité de ses perceptions. Elle se trouve enfermée dans un silence complet. Ou de même, Hulot qui, face à la victoire de Crevel, se trouve comme un homme qui cherche son chemin la nuit dans une forêt et qui soudain se rend compte qu'il est un homme de 60 ans qui attend la nuit avec un manteau mouillé. Soudain, l'énergie en quelque sorte accumulée auparavant dans l'attente du rendez-vous amoureux tombant d'un coup et refroidissant le baron sous la pluie. Alors, tout cela évidemment est vrai, et c'est pour ça qu'on reste dans mon introduction. Tout cela est vrai, mais reste encore indépendant de l'idée d'un monde des passions. En effet, pour qu'il y ait un monde des passions, c'est bien qu'il doit y avoir une pluralité de passions, une pluralité définitoire de la passion. Est-ce le cas chez Balzac ? Oui, et je voudrais le montrer en deux points. Tout d'abord, donc, en montrant la pluralité et l'interaction des passions entre elles, et puis à travers notamment la question de la manipulation. Et puis, dans un deuxième temps, le fait que cette interaction des passions aboutit à formuler un diagnostic socio-historique sur l'époque, ce qui rejoindra évidemment un certain nombre de perspectives déjà proposées aujourd'hui. Alors, pluralité et interaction des passions, pluralité des passions, puisque d'abord il y a une pluralité interne des passions, et il me semble que c'est une des caractéristiques du romanesque balzacien que de ne pas seulement raconter les conséquences d'une passion, mais également les causes et la genèse d'une passion, genèse souvent fort longue, et qui, dans notre roman, peut être assez embrouillée. De même que Hume propose des lois de composition des passions, qui permettent sinon de prévoir les passions, du moins d'en montrer la nature composite, de montrer comment certaines passions s'absorbent ou se composent. De même chez Balzac, il y a une genèse des passions par addition cumulative de différents facteurs et d'émotions diverses. À cet égard, je trouve assez frappant qu'on ait du mal, me semble-t-il, à dire exactement quelles sont les passions des personnages. Si je prends par exemple le personnage de Lisbeth, il me semble pas si facile de dire au juste quelle est la passion de Lisbeth. On pourrait dire c'est la vengeance, mais je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on puisse dire à proprement parler que la vengeance est une passion. On pourrait dire donc la rancune, mais Balzac parle également de haine. On a parlé aujourd'hui, et c'est un des éléments importants de la passion, d'envie. Bref, chaque passion balzacienne semble plutôt être un complexe de différents éléments qui viennent se mêler de manière assez confuse, d'une certaine manière. Chez Lisbeth se mêlent donc la rancœur d'enfance contre Adeline, la jalousie envers Hortense, l'amour maternel et érotique à la fois pour Wenceslas, le ressentiment de la parente pauvre dans une situation sociale de l'exclusion de la partie riche de la famille, et enfin l'amitié pour Valérie qui remplace Wenceslas dans un deuxième temps. De même chez Crevel, où la passion de Crevel, qui est décrit comme un homme passionné par Josepha à la fin. Crevel est certes passionné, mais par quoi au juste ? Par beaucoup de choses. Sa situation sociale passée fait partie de la genèse de sa passion, puisque son passé de commis chez Birotteau l'a poussé à la recherche d'une femme comme il faut, qui a été posé à ce moment-là comme l'idéal de sa vie. D'ailleurs, il tombe déjà amoureux de Valérie Marneff rien qu'en entendant ces mots, en entendant qu'elle est une femme comme il faut. D'une certaine manière, c'est une forme moderne de thème très, très idéaliste du fait de tomber amoureux par oui-dire. Mais à cette sorte de recherche de la femme comme il faut se mêle la vanité de Crevel, mais également son libertinage sexuel, bien sûr, comme une sorte de seconde couche, de second niveau par-dessus ces éléments, sa jalousie rancunière envers Hulot, à quoi il faut ajouter, tout à fait à côté, son amour paternel pour sa fille, qui est décrit dès le début du roman comme une passion. Autant dire que les passions balzaciennes sont souvent assez complexes. Les Balzac mettent souvent en scène des monomanes, obnubilés par une passion dominante qui les dévore et les détruit, c'est un fait, mais cela ne signifie pas que la passion est depuis toujours entièrement constituée. Et Balzac met au contraire au premier plan le développement de la passion, la manière dont elle prend possession du personnage. La passion est engagée dans un conflit avec d'autres forces qu'elle détruit ou absorbe progressivement. L'exemple de Crevel que je donnais à l'instant est à cet égard éclairant, puisque Célestine, au départ présentée comme un des centres d'intérêt majeurs de son père, est progressivement évincée de ses centres d'intérêt, disparaît en quelque sorte de sa conscience, et à plusieurs étapes malheureusement que j'ai oublié de noter dans le roman, Célestine est mentionnée et elle perd de plus en plus d'importance aux yeux de Crevel. De même qu'Adeline, évidemment, qui au départ est un objet de désir absolument central et qui, à la fin, se trouve elle aussi évincée de la plus violente des manières. Pluralité donc interne des passions qui en montre la complexité et le lien avec les autres personnages. En effet, il y a également une pluralité externe, si j'ose dire, des passions, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages passionnés. Sur ce point, il me semble qu'on a là un aspect assez original de Balzac. Chez Balzac, il y a bien sûr un entrelacement de nombreuses passions, et chacun des personnages, d'une certaine manière, est passionné. Il y a peu de personnages dont on dise qu'ils n'ont absolument aucune passion. Je crois que Victorin est peut-être le seul à vraiment être sans passion. Mais peut-être qu'on me prouvera le contraire. Sur ce point, il me semble que la lecture que Zola propose du roman, dans le roman expérimental, est assez fallacieuse, dans la mesure où il cherche justement à réduire le roman à un déterminisme initial, comme il le dit. Je cite, « Toutes sortes de drames secondaires se produisent sous l'action du tempérament amoureux de Hulot. C'est là, dans ce tempérament, que se trouve le déterminisme initial. » Alors, il me semble que c'est assez discutable, puisque chez Balzac, précisément, tout le monde est passionné, et c'est beaucoup plus l'entrelacement de ces différentes passions qui va provoquer le résultat final, et que la passion de Hulot en elle-même n'est qu'un des vecteurs de ce déroulement dramatique. D'ailleurs, le premier chapitre a évidemment un titre assez emblématique de ce point de vue-là, « Où la passion va-t-elle se nicher ?» précisément chez n'importe qui et chez tout le monde. Chez n'importe qui, surtout, puisqu'il s'agit de Crevel. Si bien que le roman rassemble en quelque sorte des sujets différents qui, selon le personnage, privilégient. On peut avoir en quelque sorte des intrigues différentes, un peu comme dans Andromaque, justement, on a en quelque sorte quatre intrigues différentes superposées selon le personnage qu'on favorise. Mais chez Balzac, il ne s'agit pas seulement d'une juxtaposition, d'une interrelation, mais disons qu'il y a une importance des rencontres, des alliances entre passions. Il n'y a donc pas seulement une physique de la passion, comme on le rappelait en introduction, mais cette physique débouche sur une technique de la passion, qui nécessite de comprendre comment la passion est utilisée, dirigée, orientée par d'autres passions. Ce qui est tout à fait frappant dans l'intrigue de La Cousine Bête, c'est le fait que Balzac repère la manipulation des passions, et je dirais volontiers que c'est le sujet du roman. Par rapport à Andromaque, justement, d'une certaine manière, où les passions s'affirment d'emblée et sont en quelque sorte sans raison, disons causale particulière. J'ai soudain augmenté de son, c'est normal, c'est bien, c'est mieux. Bon. Donc Balzac repère la manipulation des passions, et à cet égard, les développements qu'il propose, notamment sur les mouches par exemple, sont assez intéressants. Hein. Il y a tout un chapitre destiné à expliquer comment Valérie suscite la passion des hommes en sachant utiliser des mouches, c'est-à-dire un certain nombre d'éléments de vestimentaire ou ou de comportement qui vont allumer le désir chez l'homme. Le désir donc n'est pas une donnée initiale, n'est pas un déterminisme initial, comme dirait Zola, mais est un processus savamment entretenu, réchauffé à intervalles réguliers par Valérie, et orienté. À côté des grandes scènes d'explosion passionnelle, Lisbeth en volcan, où la passion jaillit comme l'essence du personnage, on a donc régulièrement des scènes de manipulation. Et en fait, il y a une alternance entre les deux types de scènes. C'est pourquoi le roman se divise surtout en deux faces, en deux grands versants. Frédéric Jameson, dans sa lecture de La Cousine Bête, fait remarquer qu'Adeline, incarnation de la vertu dans le roman, s'oppose non pas à une, mais à deux figures du vice. D'un côté, donc, la libido de Hulot, et de l'autre côté, la rancune de Lisbeth. On a effectivement deux trajectoires narratives dans le roman. D'un côté, la trajectoire linéaire, compulsive, répétitive des liaisons du baron, et de l'autre côté, la trajectoire réticulaire, arachnéenne de Lisbeth, dont le grand complot donne au roman sa structure et son intrigue. Le sujet du roman est le croisement de ces deux lignes. Une ligne capture l'autre momentanément, élément assez curieux de la composition du roman, ces deux lignes se séparent juste avant le dénouement. Si on considère que le dénouement commence à peu près au chapitre 100, quand Hulot se retire et a été chassé de chez Valérie, on a à ce moment-là une séparation des deux lignes, puisque Hulot va mener sa vie d'un côté, tandis que Valérie va continuer ses activités de l'autre. Il en résulte, dans tout le roman, une dramaturgie et un romanesque de la manipulation des passions. Les trois scènes de haute comédie féminine qui rythment le roman, le chapitre 90, autre guitare également, où Valérie va montrer sa capacité à imiter la vertu et à tenir le même discours que qu'Adeline, c'est-à-dire un discours plein de scrupules moraux, et où donc elle va montrer la puissance de son jeu de manière à manipuler Crevel pour le dissuader et de donner l'argent à Adeline. La théorie des mouches dont je parlais tout à l'heure au chapitre 59 qui va resservir au moment où Josepha entre en scène dans le dîner des Lorettes à la fin du roman, où il est dit qu'elle a une fleur rouge dans les cheveux, une mouche. Les gestes révélateurs également, qui sont un des éléments essentiels de la dramaturgie balzacienne. Régulièrement, les personnages laissent échapper des gestes qui peignent leur passion, mais ce n'est pas seulement à envisager comme l'expression de l'intérieur vers l'extérieur, en quelque sorte, de la passion du personnage qui explose vers l'extérieur, mais c'est aussi à envisager comme les éléments que vont exploiter ensuite les autres personnages pour manipuler justement l'homme passionné. Et les gestes de Hulot, les attitudes de Crevel sont des indices que Valérie, notamment, n'hésitera pas à exploiter, bien sûr. Ce romanesque de la manipulation produit son propre suspense. Par exemple, le moment où Valérie doit maintenir son emprise sur les cinq hommes qui l'entourent en jouant donc la comédie successivement aux différents saints-pères de l'église Marnef. Il en résulte une scission de l'univers romanesque en deux groupes de personnages, manipulateurs et manipulés. Comme le dit Bianchon à la fin, la moitié de la société passe sa vie à observer l'autre. Alors que Wenceslas et Adeline ne perçoivent même pas les signes de la passion de Lisbeth, pourtant apparemment fume comme un volcan, celle-ci se repaît des émotions d'Adeline, puisque Bette vient se repaître des émotions d'Adeline au début du chapitre 42, par exemple. Lisbeth se dirigea vers la rue Plumet, où elle allait depuis quelque temps, comme on va au spectacle, pour s'y repaître d'émotions. Et un peu plus loin, Bette... encore vient contempler les larmes d'Hortense. Quelques larmes vinrent dans les yeux d'Hortense et Bette les lapa du regard comme une chatte boit du lait. Le dîner des Lorettes à la fin du roman est un bon exemple de complémentarité entre ces deux groupes passionnés et manipulateurs. D'un côté, il s'agit pour Balzac de faire admirer dans le personnage de Montès, le Brésilien, la passion comme force et énergie qui se déploie et se répand à l'extérieur. Le Brésilien, dans cette scène, est un bloc massif et mais je gigote un peu trop, je pense. Ça reviendra probablement. D'accord, ça devrait aller. Je pense que j'ai perdu celui-ci en fait. Donc le dîner des Lorettes est un bon exemple de complémentarité entre les deux co. Je gagne tous les micros. La passion comme force du côté du Brésilien et d'autre part l'agitation spirituelle virevoltante, l'ironie, les formules incisives qui se développent tout autour de lui et qui dessinent le réseau de la manipulation qui l'enferme et qui va progressivement orienter sa passion vers le résultat souhaité. La question qui se pose au dénouement du roman, justement, c'est de savoir comment arrêter les dégâts causés par ces manipulations et ces entrelacements de passions. Tout le dénouement est marqué par une dynamique extrêmement nette de polarisation entre l'extrême sainteté et le monde du démoniaque. Toute la fin du roman met en scène de manière très appuyée la lutte du bien contre le mal, de la vertu contre le vice, et ces mots sont vertu et vice deviennent extrêmement récurrents, de même que ceux d'ange et de démon. Ce combat de la vertu contre le vice indique que la question des passions aboutit à une dimension socio-historique dans le discours de Balzac. La composition de ce dénouement est assez frappante parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle dissocie les deux fils narratifs passionnels qui en faisaient le nœud. D'un côté, la haine de Lisbeth associée à la cupidité de Valérie, et de l'autre côté, la libido de Hulot. Le double dénouement suit ces deux fils narratifs indépendamment et parallèlement. Double dénouement qui est simultané puisque Adeline voit Josepha quand Victorin voit Madame de Saint-Estève au même moment. D'un côté donc Adeline va tenter de sauver le baron tandis que de l'autre côté Victorin va essayer de punir Valérie. D'un côté la charité, de l'autre côté la justice si j'ose dire. On va d'ailleurs avoir aux côtés de Victorin et d'Adeline qui sont donc promus héros de cette fin de roman des auxiliaires symétriques. Des deux côtés un personnage chargé d'un rôle didactique qui va tenir un discours général, Chapuzot qui va parler à Victorin disons de la police, de l'autre côté Bianchon qui va parler à Adeline de la religion. Les deux personnages vont faire appel à des réseaux plus ou moins souterrains d'entraide, d'associations plus ou moins officielles. D'un côté Madame de Saint-Estève, dont on sait qu'elle est la nièce de Vautrin, et donc elle est liée à tout le milieu de la criminalité de la comédie humaine. De l'autre côté, Adeline s'engage dans les œuvres de charité de Madame de la Chanterie, donc on sait qu'elle est en quelque sorte à la tête de toutes les bonnes œuvres du Paris balsacien. Et enfin, chacun de ces anges, Victorin et Adeline, va avoir à son service un démon, Josepha du côté d'Adeline, puisque l'ange chasse de concert avec le démon, et d'autre part Madame de Saint-Estève qui va être le démon de Victorin. Alors, les deux discours didactiques, celui de Bianchon à Adeline, celui de Chapuzot à Victorin, déplacent l'accent du plan de la morale et de la psychologie des passions vers le plan social et politique. Pour Bianchon, le mal profond de la société est le règne de la finance, l'égoïsme solidifié, la nécessité de faire fortune. Et contre le cynisme qui en découle, Bianchon souligne la nécessité de restaurer les sentiments religieux. D'autre part, pour Chapuzot, ce qui est à déplorer est l'impuissance de la police dans un régime privé de la ressource de l'arbitraire royal, qui pourrait agir comme une sous-fatalité. Et sans cautionner les actes de Madame de Saint-Estève, Chapuzot va fermer les yeux sur le crime commis par Victorin. Considéré comme un bon moyen, finalement, de détruire ce que Chapuzot appelle les monstruosités morales. Dans les deux cas, il semble assez frappant que ce n'est absolument pas la passion la passion amoureuse en tout cas de Hulot qui pose problème du point de vue socio-historique ou socio-politique. Alors bien sûr, ici c'est le cas de dire que Balzac écrit à la lumière de la monarchie et de la religion, comme il le dit dans l'avant-propos de la comédie humaine, puisque Bianchon défend l'importance des sentiments catholiques, tandis que Chapuzot va défendre l'idéal d'une police toute puissante et arbitraire. Ici, on se démarque à nouveau de la lecture que fait Zola du roman. Pour Zola, le sujet du roman est le ravage que le tempérament amoureux d'un homme amène chez lui, dans sa famille et dans la société. Mais pour Balzac, manifestement, ce n'est pas le tempérament amoureux de Hulot qui est en cause, mais plutôt son exploitation précisément par Valérie et Beth, car, à vrai dire, c'est plutôt Valérie, disons, qui va apparaître comme le symptôme d'un mal plus général de la société, d'un état de la société moderne. C'est pourquoi Balzac consacre tout un chapitre à expliquer sa position très particulière, sa position sociale très particulière. C'est le chapitre 37, où il parle de ces Machiavel en jupon, dont sans doute il ressent le besoin de justifier la vraisemblance, et en même temps qu'il relie à des problèmes sociaux plus vastes. Je cite un extrait de ce chapitre 37. « Ces Machiavel en jupon sont les femmes les plus dangereuses, et de toutes les mauvaises espèces de parisiennes, c'est la pire. Une vraie courtisane, comme les Josepha, les Schontz, les Malaga, les Jenny Cadine, etc., porte dans la franchise de sa situation un avertissement aussi lumineux que la lanterne rouge de la prostitution. Un homme sait alors qu'il s'en va là de sa ruine. Mais la doucereuse honnêteté, mais les semblantes vertus, mais les façons hypocrites d'une femme mariée qui ne laisse jamais voir que les besoins vulgaires d'un ménage, entraînent à des ruines sans éclat. » Donc, ce qui caractérise Valérie, c'est essentiellement sa fausse position, en quelque sorte, et sa position fondamentalement hypocrite. Ce qui rend Valérie si redoutable, ce n'est pas qu'elle se prostitue, comme Josepha, par exemple. D'ailleurs, Josepha, à la fin du roman, apparaît comme un personnage tout à fait recommandable, d'une certaine manière, et fort sympathique, me semble-t-il. Valérie, en revanche, est à mi-chemin entre la femme adultère et la courtisane. Et précisément, elle est une courtisane qui se fait passer pour une femme adultère. Elle est donc située dans un entre-deux fondamentalement faux. Et c'est même cette fausseté, cette duplicité qui fait son charme, car elle est reconnue par Hulot et Crevel, ce qui est tout à fait frappant. Hulot et Crevel sont tout à fait conscients des mensonges de Valérie, tout en en profitant, puisqu'elle leur donne l'occasion de croire un peu à leur pouvoir de séduction. Comme le dit Hulot, le mensonge vaut souvent mieux que la vérité. Et Balzac, enfin plutôt le narrateur, enfonce le clou en disant que les tromperies de l'amour pénal sont plus charmantes que la réalité. Et Valérie, qui est capable d'avoir l'air d'une femme honnête en public et d'être plus débauchée que les pires des courtisanes en privé, est donc formée par un contraste dont le narrateur nous dit « Ce contraste plaît énormément à l'individu du genre Crevel. Il est flatté d'être l'unique auteur de cette comédie. Il la croit jouée à son seul profit et il rit de cette délicieuse hypocrisie en admirant la comédienne. » Comédienne donc qui est capable de jouer le rôle d'une femme décente et des airs de vertu, ni plus ni moins qu'une Anglaise. L'allusion à l'Angleterre signale précisément que Balzac attribue à cette hypocrisie une valeur de symptôme social et historique, puisque Balzac revient souvent sur cette idée selon laquelle la France en quelque sorte s'anglicise, glisse dans une société à l'anglaise, et Valéry, de ce point de vue-là, ne fait qu'incarner une tendance plus générale. Alors, le sentimentalisme romantique comme hypocrisie, comme il est expliqué au chapitre 24, et plus généralement, l'incarnation de ce type qu'est la femme comme il faut, caractéristique de la société moderne, et dont Balzac avait déjà fait la théorie par la voix de Blondet dans Autre étude de femme. Dans Autre étude de femme, en effet, il y a toute une dissertation du personnage d'Émile Blondet sur la femme comme il faut, considérée comme un nouveau type qui vient remplacer la grande dame, et qui est le symptôme d'un affadissement des mœurs françaises. La gracieuse franchise du XVIIIe siècle étant dégradée par l'hypocrisie anglaise. Peut-être que je vais m'orienter vers ma conclusion maintenant. Donc au risque d'un petit hiatus dans mon propos, j'avance brutalement. Le dénouement nous propose deux leçons de lucidité sur les passions. Une pour les femmes, côté Adeline, et une pour les hommes, côté Victorin. D'un côté donc Adeline ou les impuissances de la vertu. Adeline incarne la vertu au sens général, semble-t-il, dans le roman. Elle est le bien, elle est du côté de la sainteté, mais surtout en fait au sens restreint, c'est-à-dire au sens de la vertu féminine, c'est-à-dire chasteté et fidélité. Il y a dans cette insistance sur le mot vertu, une ironie très nette de la part du narrateur. Le mot vertu est répété compulsivement par Adeline, notamment au chapitre 127 dans sa discussion avec la petite Atala, où au contraire, cette invocation de la vertu semble de plus en plus creuse. D'autant plus qu'évidemment, elle aboutira à une impuissance et à une défaite complète, le vice du baron s'avérant en réalité incorrigible, et la vertu d'Adeline pourtant apparemment infinie trouvant ses limites. L'intervention de Josepha dans ce contexte n'a en réalité pas d'autre utilité que de présenter au lecteur, et même plutôt à la lectrice, un idéal d'épouse. Celle qui saura jouer à la fois les rôles d'épouse et de maîtresse, c'est-à-dire celle qui saura jouer le jeu de la manipulation des passions aussi bien que les courtisanes. La scène où Adeline échoue lamentablement à se vendre à Crevel montre les compétences d'actrice qu'exige le rôle de courtisane et d'une certaine manière montre la nécessité pour les femmes d'une éducation à la manipulation des passions et d'une lucidité sur les passions masculines. À cet égard, on peut faire un parallèle avec Madame Jules dans Ferragus, qui réalise précisément ce modèle de femme selon Balzac, semble-t-il. C'est une longue citation, mais je vais essayer de la raccourcir. Dans Ferragus, le narrateur critique ces femmes qui abandonnent leur séduction au moment où elles entrent dans la chambre à coucher du conjugal et finalement qui abandonnent leur désir de séduction qu'elles ont lors de la fête sociale et qui, pour leur mari, ne sont plus qu'une femme ordinaire d'une certaine manière. Et Madame Jules, elle, est capable de faire bien mieux puisque Madame Jules agissait tout autrement et trouvait dans les constants bénéfices de son bonheur la force nécessaire d'accomplir ses devoirs minutieux desquels il ne faut jamais se relâcher parce qu'ils perpétuent l'amour. Balzac plaçant la barre très haut pour les femmes, évidemment. Ses soins, ses devoirs, ne procèdent-ils pas d'ailleurs d'une dignité personnelle qui s'y est à ravir? N'est-ce pas des flatteries? N'est-ce pas respecter en soi l'être aimé? Donc, Madame Jules avait interdit à son mari l'entrée du cabinet où elle quittait sa toilette de bal et d'où elle sortait vêtue pour la nuit, mystérieusement parée pour les mystérieuses fêtes de son cœur. Donc, elle est déguisée en société et elle est aussi déguisée dans la chambre à coucher pour son mari. Et c'est cela, en quelque sorte, l'idéal d'une épouse qui sait, comprendre les passions, au lieu de les oublier, comme le fait Adeline. Un mari, nous dit alors Balzac, subit alors avec délice les bonheurs de la fidélité. Donc lucidité de ce côté féminin sur les passions, lucidité également du côté masculin sur lequel je vais peut-être passer beaucoup plus rapidement, notamment parce que ça ira sans doute dans l'intrigue feuilletonesque de la cousine bête. Victorin, censé être la version masculine de sa mère, traverse également un apprentissage guidé cette fois-ci non pas par Josepha mais par Madame de Saint-Estève dont la machination va concentrer en quelques pages tous les mécanismes exposés pendant le roman, tous les mécanismes de manipulation des passions, puisque la machination de Madame de Saint-Estève va être une magnifique subordination de passions les unes aux autres dans une sorte de jeu de domino absolument ravissant, puisque Madame de Saint-Estève va exploiter la cupidité et l'envie des lorettes entre elles pour exciter la jalousie du Brésilien qui elle-même va se greffer en quelque sorte sur la fantaisie qu'a Valérie pour Venceslas, le tout pour organiser un flagrant délit exactement parallèle au flagrant délit qui avait eu lieu pour le pauvre Hulot dont il avait été victime. La victoire, certes compromettante, consiste là aussi dans un certain usage des passions qui permet de jouer le rôle d'une sous-fatalité dont, semble-t-il, le narrateur espère que le lecteur saura tirer les leçons. En conclusion, je dirais donc que l'aspect de physique des passions qui définit l'énergétique balzacienne est largement exploité dans La Cousine Bête au profit d'une technique des passions, d'une exploitation des passions et d'une manipulation des passions. Qui débouche, qui permet de faire l'articulation avec la dimension proprement sociale et historique de la passion.